France Inter.
Aujourd'hui, sale temps pour les champignons, raconté par
Colline de Vautour, enseignante chercheuse en écologie et microbiologie à l'école d'ingénieurs Unilassalle.
Et Florian Kirchner, responsable espèces au comité français de l'UICN.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
C'est en ce moment que mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À 500 pas, au détour d'un haut promontoire, une forêt haute, touffue, épaisse, apparut à nos yeux. Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers, à contours nets et géométriques. Les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage, et au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdres pétrifiés. Je hâtais le pas, je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières. Ne faisait-elle point partie des 200 000 espèces végétales connues jusqu'alors ? Et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore des végétations lacustres ? Non. Quand nous arrivâmes sous leur ombrage, ma surprise ne fut plus que de l'admiration. En effet, je me trouvais en présence de produits de la terre, mais taillés sur un patron gigantesque. Mon oncle les appela immédiatement de leur nom. « Ce n'est qu'une forêt de champignons », dit-il. Et il ne se trompait pas, que l'on juge du développement acquis par ces plantes chères au milieu chaud et humide. Je savais que le Lycoperdon giganteum atteint, suivant Bulliard, 8 à 9 pieds de circonférence. Mais il s'agissait ici de champignons blancs hauts de 30 à 40 pieds, avec une calotte d'un diamètre égal. Ils étaient là par milliers. La lumière ne parvenait pas à percer leur épais ombrage. Et une obscurité complète régnait sous ces dômes juxtaposés comme les toits ronds d'une cité africaine. Cependant, je voulus pénétrer plus avant. Un froid mortel descendait de ces voûtes charnues. Pendant une demi-heure, nous errâmes dans ces humides ténèbres et ce fut avec un véritable sentiment de bien-être que je retrouvai les bords de la mer. Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons. Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, 1864.
Les champignons, une forêt de champignons. Ils ont peut-être des centaines d'années, mais on peut manger les petits. Ils sont délicieux. Quand on pense qu'ils poussent comme ça au centre de la Terre.
Et c'était aussi un film, Voyage au centre de la Terre, d'Henri Levin en 1960. Colline de Vautour, Florian Kirchner, bonjour à tous les deux. Et bienvenue à ce micro. Alors ces champignons géants, Colline de Vautour, qu'on prend pour des plantes d'ailleurs chez Jules Verne, ça c'était au 19e siècle, on en sait un peu plus sur ces organismes ou pas? Parce que les champignons, et vous l'avez rappelé récemment dans un article de The Conversation, ne sont pas des plantes.
Non, tout à fait. D'ailleurs, très beau texte. Non, alors les champignons, c'est un règne à part entière. On est sur des organismes qui ne sont ni des animaux, ni des plantes, ouais. Qui ne font pas de photosynthèse. On a tendance à penser ça, mais les champignons ne font pas de photosynthèse. Après, pour définir ce qu'est un champignon, ça va dépendre à quel expert vous posez la question.
Personne n'est d'accord, il n'y a pas de consensus encore sur la question.
Disons qu'il n'y a pas un caractère qui va regrouper tout ce règne. Donc, et comme on découvre de nouvelles espèces tous les ans, en fait, à peu près 3000 espèces de nouveaux champignons tous les ans, et ben ces frontières, elles bougent. Le tableau, il n'est pas encore très très clair. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un champignon ? Eh bien, ça ne fait pas de photosynthèse. Ça a une grande diversité de formes de vie. On s'imagine seulement ce pied avec ce chapeau ou ses oreilles accolées aux arbres.
Grave erreur.
Voilà, grave erreur, parce que vous connaissez les levures, ce sont des organismes unicellulaires. Vous connaissez les moisissures qu'on a chez nous. Ces organismes-là ne forment pas de champignons, forment pas cette structure, car cette structure que vous cueillez en automne, ce sont uniquement la partie reproductive. Et il n'y a que quelques groupes de champignons qui forment cette structure.
Ouais. Le problème, c'est qu'en français, on n'a qu'un seul mot, au fond, pour exprimer tout ça, alors que les Anglais, eux, en ont deux.
Oui, alors il y a fungi, on peut dire la fonge en français, ou les espèces fongiques.
Ouais.
Et donc, la partie de reproduction, eh bien, c'est le champignon, ou le nom un peu plus sophistiqué. En anglais, c'est mushroom, et le nom scientifique, c'est le sporophore.
Voilà, donc les Anglais sont plus précis, finalement, que nous sur la question.
C'est pas qu'ils sont plus précis, c'est que nous, en français, on a ce mot qui regroupe ces deux termes, et je pense que ça prête à confusion, effectivement.
Ouais. Le 24 avril dernier, Colline de Vautour, vous avez signé pour le média en ligne The Conversation un article dans lequel vous évoquiez les menaces d'extinction qui pèsent actuellement sur près d'un tiers des champignons dans le monde, à la suite justement de l'actualisation de la liste rouge mondiale de l'UICN. Avant de commenter ces chiffres et de voir quelle est la situation pour la France, il faut se dire que d'abord, des champignons, il y en a de différentes formes, effectivement, vous le disiez, de très nombreuses espèces, sauf que on ne sait pas encore combien réellement, c'est ça ?
On ne sait pas exactement combien. Donc là, pour le moment, on en a 155 000 qui sont décrites.
Oui.
On en estime entre 2 millions et 6 millions. Donc
oui,
la fourchette est large.
Ouais.
On ne sait pas trop exactement combien d'espèces il y a. Ce qui est difficile pour faire ces estimations et pour étudier les champignons, c'est qu'il y en a qui sont associés avec d'autres espèces, donc c'est difficile de faire des cultures en laboratoire.
Ouais.
Il y en a qu'on identifie grâce à des extraction d'ADN et du séquençage et qu'on n'arrive pas à cultiver, donc c'est difficile de faire ces descriptions de champignons aussi. Voilà, c'est aussi des micro-organismes,
oui.
Donc on a moins de connaissances et ça demande plus de méthodes pour pouvoir les étudier. Donc tout ça, ça fait que, en plus du fait qu'on ait moins de financement, historiquement parlant, pour étudier les champignons, ça fait qu'on les connaît moins.
Oui. Et c'est la raison aussi pour laquelle, Florian Kirchner, on ne les trouvait pas jusqu'à maintenant dans les listes rouges de l'UICN ?
Ben exactement. Il faut reconnaître qu'il y avait un peu un manque jusqu'à maintenant dans la liste rouge. Alors, il faut savoir que la liste rouge, hein, au niveau mondial comme en France, c'est un état de santé des espèces. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est, avec la liste rouge, c'est avoir un bon baromètre de l'état de santé des espèces. Mais pour avoir un bon baromètre, on doit s'intéresser à toutes les composantes de la biodiversité. C'est vrai que la liste rouge couvre déjà très bien les animaux, une partie des plantes, même s'il y a encore beaucoup de travail. Mais jusqu'à maintenant, elle était orpheline des champignons. Donc, au niveau mondial comme en France, a émergé il y a quelques années le projet de s'intéresser aux champignons. Donc en France, ça remonte à même quasiment 20 ans, mais ça a mis beaucoup de temps à démarrer, exactement pour les raisons qu'on évoque là, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup de spécialistes en France, c'est des espèces très peu connues, donc du coup, c'est pas facile, c'est un vrai défi en fait, de savoir quelles espèces de champignons sont menacées.
Donc on a un manque de connaissances aussi qui peut expliquer ce retard par rapport à d'autres organismes vivants.
Exactement. Ben, en gros, on a beaucoup moins de mycologues, de spécialistes des champignons, que de botanistes, de spécialistes des plantes. Puis beaucoup moins de spécialistes des champignons que sur des espèces du règne animal. Et donc, du coup, on a moins de connaissances. Et du coup, on en parlera, je pense, au cours de l'émission, on a aussi moins d'actions de conservation.
Oui.
On connaît moins, on agit moins. Donc, il y a tout ça qu'il faut rattraper si on veut affronter un petit peu les enjeux qui concernent les champignons.
Ouais, et pourtant, les scientifiques ont tiré récemment la sonnette d'alarme, justement au sujet de la situation des champignons, eu égard précisément aux travaux qui ont été menés sur le problème de l'extinction de ces organismes, qu'on trouve, Colline de Vautour, partout sur la planète ou pas ? Milieu terrestre, milieu marin, il y a des champignons partout ?
Alors oui, récemment on s'intéresse beaucoup aux champignons en milieu aquatique.
Ouais.
On en découvre une très grande diversité. Et donc juste pour revenir sur cette diversité de champignons, bien, il y a ceux qu'on connaît bien, enfin plutôt bien ce qu'on cueille dans la forêt, parce que c'est des macro-organismes, donc c'est plus facile.
Et très visible.
Très visible.
Ouais.
Les levures, les moisissures et les maladies. Et on a bien sûr ceux qui décomposent la matière organique. On a ceux qui sont assez populaires en ce moment par rapport à la série The Last of Us,
ouais,
qui infectent des insectes.
Des cordyceps.
Voilà, et qui les rendent zombies, pour ainsi dire.
C'est
et
ça.
On a les champignons mycorhiziens, qui sont en association avec les plantes et qui sont dans une relation mutualiste où ils échangent des nutriments entre eux.
Quel rôle ils jouent justement les champignons dans le fonctionnement général des écosystèmes ? La liste est assez vaste, j'imagine, mais
oui.
Si on peut donner quelques rôles comme ça clés.
Quelques rôles clés, la décomposition. Donc ça permet de rendre les nutriments de nouveau accessibles pour les plantes. Vous avez aussi les pathogènes. Hein, nous, on n'aime pas trop parce que ça infecte nos cultures. Mais dans le milieu naturel, des parasites et des pathogènes, ça régule les populations. Ouais. C'est très important. Et comme je vous disais, ces champignons mycorhiziens qui échangent des nutriments avec les plantes, ça contribue fortement à la diversité des plantes et à la bonne nutrition des plantes.
Florian Kichner, comment on fait pour savoir combien d'espèces de champignons sont menacées, puisque c'est l'objet de la liste qui a été publiée, si on ne sait pas exactement combien d'espèces il y a précisément? Alors, comment vous travaillez?
Alors, on travaille sur les espèces les plus connues. Mais alors, je voulais rebondir sur ce que Colline disait juste avant. Ce qui est fascinant, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'on connaît les champignons, parce qu'on connaît des pieds et des chapeaux en forêt. Donc ça, c'est ce que tout le monde connaît et voit quand on dit champignons. Mmh. En fait, ce qui se passe avec les champignons, en tout cas les champignons mycorhiziens en forêt, c'est sous nos pieds, sous la litière, sous le sol. Il y a des réseaux de filaments mycéliens qui sont enchevêtrés. Et Colline parlait du rôle des champignons. En fait, il faut insister sur le fait que ce rôle, il est absolument essentiel pour les forêts. Il faut imaginer qu'il y a une symbiose, en fait, entre les algues, les arbres et les champignons. Ouais. La plupart des arbres vivent de manière liée aux champignons. Et donc, les champignons fournissent de l'eau et des sels minéraux aux arbres. Les arbres, en échange, leur fournissent des aliments élaborés, des sucres issus de la photosynthèse.
Tout à fait.
Donc, c'est une association à bénéfice réciproque.
Donc, c'est des règnes, effectivement, différents, mais tout est en interaction, en fait, permanente.
Exactement. Alors, le règne des champignons est méconnu. On ne les voit pas forcément beaucoup quand on se promène dans la nature. On voit plutôt les plantes qui forment les paysages et les animaux. Mais en fait, ils jouent un rôle central et essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que les forêts ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui s'il n'y avait pas les champignons. Les champignons, grâce à ces associations mycorhiziennes, ils contribuent à la bonne santé des forêts, à la croissance des arbres, à leur résistance aux sécheresses, à leur résistance aux maladies. Donc, en fait, le règne des champignons, qu'on connaît si peu, est absolument essentiel pour toute la nature qui nous entoure.
Mais c'est un règne de l'invisible, ce qui explique aussi qu'on s'y intéresse aussi peu, peut-être.
C'est pas qu'on s'y intéresse peu. Je pense que c'est plus difficile de les étudier, c'est plus difficile d'intéresser des gens à les étudier aussi parce que c'est microscopique, donc c'est plus compliqué. Je voulais, par rapport à ce que disait Florian, un des aspects très importants par rapport aux champignons mycorhiziens aussi, c'est le stockage de carbone. Parce que cette association fait que certains champignons sont complètement dépendants du carbone que leur fournit la plante. Donc la plante qui absorbe le CO2 en faisant sa photosynthèse et qui produit du sucre, elle le donne aux champignons. Donc il faut bien imaginer que ça permet de capter du CO2 de l'atmosphère qui va être fixé dans le sol. Donc ces champignons-là ont un grand rôle dans la fixation du carbone dans l'écosystème.
Voilà. À l'heure du réchauffement climatique, évidemment, c'est un sujet absolument important, d'où aussi la préoccupation que les scientifiques ont émise avec l'extinction de ces champignons. On va essayer de comprendre d'ailleurs quelles sont les raisons avec vous dans un instant. Je reviens sur ma question, Florian Kichner, tout à l'heure. Comment on sait, justement, comment on étudie ce sujet si on ne sait pas exactement combien d'espèces il y a et qu'on est capable de dire qu'il y a un tiers des champignons qui sont menacés d'extinction aujourd'hui, alors?
Oui, c'est un vrai défi, mais alors on a commencé à travailler humblement, si on veut. On a commencé à travailler sur ce qui était le plus facile. Donc en gros, les espèces les plus connues. Donc une partie des champignons à chapeau. Pour la France, par exemple, on a évalué l'état de santé des bolets, des lactaires et des tricholomes. Donc pour les connaisseurs, c'est une partie des champignons à chapeau.
Mais là encore, c'est les visibles, finalement, non?
C'est ceux qui sont visibles et les plus connus. Donc c'est une toute petite partie des champignons. Et alors, savoir quelles espèces sont menacées, on travaille en plusieurs étapes. C'est un travail de longue haleine qui associe énormément de personnes. Alors, le point de départ, c'est un petit peu de contacter tous les spécialistes des champignons en France. Donc, il y a des universitaires du CNRS ou d'université. On travaille avec le Muséum d'Histoire Naturelle. On travaille avec l'Office français de la biodiversité pour la liste rouge. Et puis, il y a des conservatoires botaniques aussi qui ont des compétences sur les champignons. Il y a des établissements publics comme l'INRAE ou l'Office national des forêts qui travaillent sur les champignons. Et il y a des associations spécialisées.
Donc, tout le monde est mobilisé.
Tout le monde est mobilisé, oui.
Ouais. Et donc, on fait le tour et on est capable de faire un inventaire à partir de ça.
Alors, exactement. On a beaucoup compté sur ADONIF, qui est une association sur les données naturalistes champignons, et sur la Société mycologique de France. Il faut savoir qu'il y a des réseaux de naturalistes. Tous les spécialistes des champignons ont leur carte à la SMF, la Société mycologique de France. Et donc, c'est grâce aux connaissances de toutes ces personnes. Alors, en gros, il y a deux profils. Il y a des scientifiques extrêmement pointus, d'université ou CNRS ou autre. Et il y a beaucoup de naturalistes amateurs, mais qui sont tellement passionnés de champignons.
Les connaisseurs.
Qui sont, voilà, qui ça, ils passent leur semaine, leur week-end, leurs vacances à recenser les champignons en forêt, à essayer de débusquer les espèces menacées.
Ouais. Le 27 mars dernier, donc, la liste rouge mondiale a été actualisée. On va en parler dans un instant et puis on va évoquer le cas précis de la France. Et puis, amis auditoris, nous attendons vos messages, vos témoignages sur la page de l'émission, mais aussi avec nos messages vocaux. Vous pouvez nous rejoindre avec l'application Radio France.
Mathieu Vidard, la terre au carré.
Alors là, on a un bolet à chair jaune, mais surtout la partie intéressante, c'est ce qui est caché sous les feuilles mortes. Donc ce réseau souterrain qu'on appelle le mycélium absorbe les éléments nutritifs et ces éléments minéraux sont transportés le long du réseau souterrain vers la racine où ils sont échangés contre les sucres que produit la plante pour cette symbiose à bénéfice mutuel. On constate aujourd'hui avec les dépérissements forestiers, avec le changement climatique, qu'une partie de ces champignons sont en train de disparaître.
Un grand spécialiste français des champignons qu'on a souvent eu à ce micro, Francis Martin, avec l'extrait d'un documentaire d'Arte sur le dessous des champignons. Colline de Vautour, vous qui êtes enseignante chercheuse en écologie et microbiologie. Florian Kirchner, responsable du programme Espèces au sein de l'UICN France. Vous êtes donc nos invités pour parler de la menace, des menaces de disparition qui pèsent sur les champignons. Si vous nous rejoignez, vous pouvez bien sûr nous envoyer toutes vos questions et vos réactions sur ce sujet. Le 27 mars dernier, la liste rouge mondial de l'UICN était donc actualisé pour inclure le statut de 1300 espèces de champignons. On est loin, donc on en parlait tout à l'heure, des 155 000 espèces connues, puisqu'il devrait y en avoir entre 2 et 5 millions. Et il y a eu aussi, donc pour la première fois, une liste rouge l'année dernière pour la France. Florian Kirchner, expliquez-nous un petit peu comment vous avez travaillé là-dessus avec le reste de la planète.
Ben exactement, il y a deux initiatives actuellement qui se développent au niveau mondial. 1300 espèces de champignons évaluées, donc c'est une toute première, mais c'est vrai que c'est une goutte d'eau par rapport au travail qui reste à faire sur les champignons. Et parallèlement, en France, on a décidé de se doter d'un état des lieux national des champignons.
Pour la France métropolitaine ?
Pour la France métropolitaine, mais oui, pour le moment uniquement. Donc il faudra bien sûr, il y a les mêmes enjeux en Outre-mer, il faudra s'y intéresser aussi. Pour le moment, on a un peu plus de 300 espèces de champignons à chapeau en France métropolitaine qui ont été évaluées.
Et donc, à partir de cela, vous êtes capable de dire qu'un tiers des champignons sera en voie d'extinction aujourd'hui sur la planète ?
Alors ça, c'est sur l'état des lieux mondial, effectivement. On arrive à un tiers. Alors, comment on peut savoir ça ? On utilise une méthodologie qui est la méthodologie de la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a défini des critères avec des seuils précis pour classer les espèces, mais alors toutes les espèces, animaux, plantes comme champignons, pour les classer dans des catégories de menaces. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est quelles espèces sont menacées. Et pour nous, les espèces menacées appartiennent à trois catégories. Elles peuvent être vulnérables, c'est la première catégorie, en danger, avec un risque plus important d'extinction, ou en danger critique, un risque très fort d'extinction. Mmh. En danger critique, c'est la dernière marche avant l'extinction.
Donc ça, c'est la classification.
C'est la classification.
Mais quels sont, alors là, je vais me retourner aussi devant vers Colline de Vautour, parce que c'est aussi une question qui vous intéresse, sur la méthodologie en fait.
Tout à fait, parce que quand on parle de plantes ou quand on parle d'animaux, on a des effectifs de population qui sont en déclin ou pas. Et champignons qui sont capables de se cloner et qui sont microscopiques sous nos pieds ou autres, comment on fait pour savoir leur état ?
Quels sont les critères, du coup, que vous adoptez pour dire que tel ou tel champignon est en voie d'extinction, alors qu'effectivement, il peut y avoir des clones, donc ça complique énormément les choses.
Oui, autant dire qu'il y a des critères qui marchent très bien pour les animaux, qu'on a vraiment du mal à appliquer pour les champignons. Alors, heureusement, on a toute une série de critères possibles, donc on utilise ceux qui marchent. Mais les effectifs, habituellement, c'est les principaux critères qu'on utilise. Ça, c'est logique. Plus une espèce est d'effectifs réduits, plus elle a tendance à avoir un risque d'extinction fort. Par contre, premier écueil pour les champignons, c'est comment on compte les champignons. Alors, si on est, pour vos auditeurs, vous allez en forêt, vous comptez les pieds de champignons, mais en fait, quand on voit 4 pieds sous un arbre, combien on a de champignons ?
Parce que,
comme Colline l'expliquait, c'est un clone.
C'est une bonne question.
C'est ça. Est-ce qu'il y a un clone, il y a 4 clones, En fait, on a vraiment du mal déjà à compter les individus de champignons. Si
Et vous alors, c'est quoi la réponse ? Parce que c'est une question pour le jeu des 1000 euros, ça. Alors, on a 4 champignons devant nous, combien il y en a en réalité ?
Exactement. Ça peut être très bien qu'un. Tout à l'heure, on citait des champignons qui s'étendent sur plusieurs hectares. Ça peut être un seul individu de champignons sur plusieurs hectares. Parfois, un pied, c'est un seul clone. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise pas tellement les effectifs. Les effectifs, c'est signifiant pour des plantes à fleurs ou des animaux. Pour les champignons, c'est un peu trop casse-tête. On a un autre critère qu'on peut utiliser, c'est le déclin. Plus une espèce est en déclin prononcé, sur donc 10 ans ou 30 ans, plus elle a tendance à avoir un risque d'extinction fort. Mais là aussi, écueil pour les champignons, c'est qu'on a tellement peu de suivi temporel que souvent on n'arrive pas à mesurer l'évolution dans le temps.
Oui.
On a au mieux une photographie à un moment donné de où se trouve un champignon en France.
Donc ça n'est pas très satisfaisant là pour l'instant.
Ça explique pourquoi on a du mal à évaluer les champignons. Mais du coup, on en arrive au troisième critère qui est le plus utile pour nous, c'est les surfaces occupées par les champignons. Et là aussi, c'est assez logique. Plus une espèce est d'air restreinte, en gros plus elle est rare, plus elle a un risque d'extinction important. Il y a certains champignons, il y a un lactaire des saules réticulés, par exemple en France, qui n'existe que dans deux endroits, dans les Alpes, uniquement deux endroits en France. Et bien lui, il est hautement menacé, parce que si ces deux zones disparaissent, il disparaît complètement de France.
Colline de Vautoy, est-ce que vous êtes convaincue par les arguments de Florian Kirchner
méthodologie ? De toute façon, il faut qu'on se lance et qu'on commence à évaluer l'état des champignons dans le monde. Ouais. Ça, c'est une certitude.
Donc un tiers au niveau mondial, un tiers de champignons en voie d'extinction. Et au niveau français, alors, est-ce qu'on a exactement les mêmes rapports ou pas ?
Alors, on n'a pas exactement les mêmes rapports au niveau français. Pour le moment, on a identifié 28 espèces menacées ou quasi menacées. Alors, c'est un peu moins qu'au niveau mondial, mais ça s'explique parce qu'on a, nous, évalué un groupe d'espèces qui était probablement moins menacées que la moyenne. Donc, du coup, on s'attendait un petit peu à ce résultat. Une autre partie de l'explication, c'est qu'un quart des champignons qu'on a voulu évaluer, on n'a pas pu savoir s'ils étaient menacés ou pas. Mmh. C'est qu'on a une catégorie qui s'appelle données insuffisantes. Comme la liste rouge, c'est un état des lieux objectif. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas assez d'informations, par exemple, on ne connaît pas les surfaces occupées, on connaît mal une espèce qui est discrète, difficile à repérer, et bien cette espèce, on la classe dans la catégorie données insuffisantes. C'est en partie insatisfaisant parce que du coup, dans cette catégorie DD, data deficient, il y a des espèces menacées, mais on n'est pas capable de le prouver. Et la liste rouge, c'est un système qui marche par argumentation qui prouve qu'une espèce est menacée.
Ouais.
Donc il y a un quart d'espèce.
Donc qu'est-ce qu'on peut dire de l'état finalement des champignons en France métropolitaine alors aujourd'hui ?
Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'y attendait un petit peu, mais depuis le début de l'émission, on explique que les champignons sont des espèces complètement à part, un règne complètement à part, qui n'a rien à voir avec des plantes ou des animaux. Malheureusement, par rapport au contexte de la crise écologique actuelle, c'est des espèces qui subissent tout à fait les mêmes menaces que les autres espèces. En fait, les champignons ne sont pas du tout à part si on raisonne en termes d'enjeux de conservation et de menaces. Alors, je ne sais pas si on parle maintenant des menaces.
Bien sûr. Qu'est-ce qui explique justement cet état
On retrouve en fait les mêmes menaces qu'on observe sur une grande partie de la faune et de la flore. La fonge, donc c'est les champignons, sont soumis aux mêmes menaces. En numéro un, c'est la destruction des habitats naturels.
Ça, c'est la principale pression.
Oui, toutes les atteintes qu'on fait subir au milieu naturel. Alors, ça peut être l'urbanisation ponctuellement. Ça peut être aussi la disparition de vieilles forêts sous le coup de la sylviculture intensive. Mmh. Donc, certaines pratiques, en fait, la sylviculture, c'est pas un problème. Mais quand on fait des coupes rases, quand on coupe les vieux arbres, par exemple, affecte.
On tue aussi tous les champignons
Ça affecte les oiseaux forestiers, les insectes forestiers, mais aussi une partie des champignons. Ça, c'est vrai au niveau mondial comme en France. Hein, c'est identifié comme une grande menace. Donc, il y a vraiment un enjeu fort à revoir la manière dont on fait la sylviculture.
Vous mentionnez la conversion des forêts en plaines agricoles, par exemple. Là aussi, ça joue sur le règne des champignons ?
Exactement. Il y a des zones de forêt dont ont besoin les champignons qui sont convertis en prairies, qui sont du coup inaptes aux champignons. Il y a parfois même des surfaces forestières qui sont changées en termes d'espèces. Il y a des champignons qui dépendent des chênes, par exemple. Et quand ces chênes sont convertis en peuplement de résineux, toutes les espèces qui dépendent des chênes disparaissent. Donc parfois, les changements de plantation ont un impact aussi. C'est souvent lié à la sylviculture intensive, ces plantations
de Vautour.
C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette grande diversité de champignons, on a des champignons qui dépendent parfois d'autres organismes pour vivre. Si on enlève ces organismes-là, on perd les champignons qui sont associés avec.
Avec des champignons très spécialisés, parfois.
Parfois, oui, effectivement.
L'incapacité de s'adapter à d'autres milieux.
Si je reviens aux champignons mycorhiziens, on a des champignons mycorhiziens qui sont très associés à certaines espèces de plantes. Si on enlève ces plantes-là, ces champignons mycorhiziens, ils ne peuvent plus être là non plus.
Florian Kirchner, dans la liste rouge de l'UICN sur les champignons, vous évoquez également les espèces d'altitude qui, elles aussi, subissent de nombreuses pressions. On peut en parler parce que là aussi, c'est directement lié aux activités humaines.
Oui, exactement. Alors, on n'y pense pas forcément, mais certains développements d'infrastructures touristiques, ça peut être des pistes de ski, des pylônes électriques ou des pylônes de remontée mécanique, par exemple, affectent des habitats cruciaux pour les champignons. Donc, on a des espèces d'altitude menacées par la création de pistes de ski ou autres. parfois par le surpâturage aussi. Hein. C'est pareil, le pâturage, ce n'est pas du tout un problème, mais quand il est excessif, hein, on est toujours dans, quand on est dans l'excès, le surpâturage, alors à la fois par l'effet du piétinement, mais aussi beaucoup par l'apport de matière organique, hein, par les déjections, etc., modifie le milieu des champignons. Et il y a des champignons qui ont besoin de milieux pauvres, si on veut, hein, de prairies maigres, on appelle ça. Mmh. Maigre, ça veut dire pauvre en nutriments.
Les lactaires des saules réticulés, par exemple, hein, qui sont classés en danger critique, le lactaire nain alpin ou encore le lactaire charmant. Tout ça, c'est lié aux activités humaines, hein, ce que vous décriviez justement à l'instant.
Hein. Exactement. Le point commun de tout ce qu'on peut énumérer, c'est que c'est les conséquences des activités humaines qui menacent les espèces qui nous entourent. C'est vrai pour les animaux comme c'est vrai pour les champignons.
Autre facteur de pression et d'extinction, c'est le dérèglement climatique, hein, qui représente une autre menace très sérieuse aussi pour le règne des champignons.
Exactement. Alors on n'y pense pas forcément, mais ce qu'il faut savoir, hein, de manière générale, c'est que le changement climatique dont on parle de plus en plus modifie profondément les conditions environnementales de toutes les espèces qui vivent sur Terre. Mmh. Il y a des espèces qui vivent très mal du coup les effets du changement climatique. On le sait pour les espèces d'altitude, les espèces des pôles, etc. Mais les champignons, il faut bien se figurer que beaucoup dépendent de conditions de fraîcheur, par exemple. Et évidemment, avec les hausses de température qu'on a connues cet été ou les étés précédents, c'est extrêmement défavorable. Quand les litières s'assèchent, il y a des champignons qui en pâtissent. Il y a aussi, on n'y pense pas forcément, mais des incendies qui jouent. Les incendies sont une calamité, et on en a encore l'exemple cet été en France, une calamité pour des espèces qui se déplacent peu, comme des tortues ou des insectes, etc., mais aussi pour les champignons.
Vous dites aussi, d'ailleurs, dans le rapport, que certaines espèces, comme le bolet de plomb, sont frappées par l'augmentation de la fréquence des tempêtes. Hein.
Exactement. Les tempêtes aussi peuvent profondément modifier certains habitats naturels cruciaux pour des champignons.
Donc tout ça, en fait, se cumule aux différentes pressions. C'est ce qu'il faut voir. Hein. C'est que dans les différents milieux, collines de vautours, on a des effets catastrophiques parce que ça se multiplie, effectivement.
Bah, si vous ajoutez une menace plus une autre, ça devient beaucoup plus compliqué, effectivement, pour ces organismes de survivre, de se reproduire, de renouveler les populations. Ouais. Après, il n'y a pas qu'une question de température ni de tempête. Il y a le changement dans les régimes de pluie, par exemple. Pensez bien qu'un champignon qui, en général, l'humidité, c'est très important. Si on change ces régimes de pluie, ça aura forcément un impact sur les populations de champignons. Et autre chose, je reviens sur ces champignons qui sont associés aux plantes. Si les plantes sont affectées par les changements climatiques, on peut forcément s'attendre à une répercussion sur les champignons.
Les espèces présentes dans les parcs ou les forêts périurbaines, comme le bolet rubis, classé en danger, victime de l'épandage d'engrais et de fongicides, qui altèrent la qualité du sol.
Oui, on parle beaucoup des pesticides dans l'actualité. Alors, les fongicides en particulier, qui ciblent les champignons. Voilà, on en a besoin quand il s'agit de lutter contre certains champignons pathogènes, mais ça peut affecter des espèces de champignons dont certaines sont déjà extrêmement rares et vulnérables.
Les sangliers, qui prolifèrent localement aussi, vous en parlez dans le rapport, en raison de nourrissage récurrent, ça aussi, il faut le savoir, qui labourent et qui abîment aussi donc, les sols et détruisent même parfois directement des champignons, comme le bolet rose pastel que vous citez dans le rapport. En tout cas, vous indiquez effectivement que malgré toutes ces menaces, aucune espèce de champignon ne fait à ce jour l'objet d'un programme de conservation dédié. On va en parler dans un instant parce qu'il faudrait quand même qu'on se mette très sérieusement à les protéger, ces champignons. On en parle avec vous dans un instant. Et puis nous attendons, amis auditeurs et auditrices, vos questions, vos témoignages sur la page de l'émission et sur l'appli Radio France.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Je pense que l'accent a été beaucoup mis sur la protection d'espèces charismatiques, comme le panda ou la barrière de corail. Ce que l'on veut, c'est rendre visible l'invisible. Que les gens se rendent compte de la diversité des écosystèmes des sous-sols, car ils méritent d'être protégés autant que ce qui existe à la surface.
Voilà la voix de la spécialiste Toby Kayers avec cet extrait d'un reportage d'Arte sur le dessous des champignons, collines de vautours. Florian Kirchner, vous êtes nos invités cet après-midi. On parle donc des menaces qui pèsent sur ces invisibles. Effectivement, la plupart du temps, on les connaît tellement mal. Les champignons, un tiers donc, qui ont été recensés, menacés d'extinction selon l'UICN. Que faire pour tenter de sauver ces organismes, Florian Kirchner, au moment où les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, hein, et justement nous indiquent que ce serait quand même pas mal qu'on s'y intéresse de près à ces champignons?
Et oui. Alors quand on établit une liste rouge, on établit un diagnostic, mais évidemment on accompagne ce diagnostic de préconisation. Ouais. On trace un peu des voies à suivre pour améliorer les choses, c'est vraiment le rôle de l'UICN. Premier constat sur les champignons, alors on a la liste rouge qui est un outil scientifique qui recense aujourd'hui des espèces menacées, mais en France par exemple, il n'y a aucune espèce de champignon protégée. Donc ce qu'on constate, c'est que...
Ça, c'est spécifique à la France ou c'est dans le monde entier, a priori?
Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est quand même très généralisé, mais il y a peu d'endroits où il y a des champignons protégés, sauf si Colline connaît peut-être...
Je crois qu'il y a une espèce qui est protégée, je sais plus dans quel pays, mais c'est extrêmement
rare. En tout cas, en France, rien. Ça, c'est sûr.
Oui. Donc, on a des listes d'espèces protégées pour des animaux, pour des plantes, et c'est heureux. Ça permet d'éviter de les détruire, d'interdire de les détruire sous peine de sanctions. Ça permet d'éviter des aménagements pénalisants, hein, comme route ou zone commerciale ou autre. Les champignons, rien du tout.
C'est insensé quand même, quand on y pense. Quand on réécoute le rôle joué par les champignons dont vous nous parliez tout à l'heure, on tombe un petit peu de sa chaise quand même, non ?
Exactement, il y a un retard incroyable. Alors, ça s'explique quand même par le manque de connaissances jusque-là. Et nous-mêmes, on est seulement en train de commencer à établir la liste rouge. Hein, donc, on ne veut pas trop jeter la pierre au pouvoir public. Mais il y a vraiment maintenant un rattrapage à mener. Il faut qu'il y ait une liste d'espèces protégées, au moins pour les espèces les plus menacées de champignons. Bonne nouvelle quand même, le travail est en cours. C'est-à-dire, au sein du ministère de l'écologie, il y a une réflexion qui a été lancée pour identifier une première liste d'espèces de champignons qui pourraient bénéficier de protection réglementaire.
Il était temps, Colline de Vautour, non ?
Oui, je pense. Une bonne chose, je pense, en France, c'est qu'on a aussi on préserve des habitats. Il y a une volonté de préserver certains habitats. Et quand on fait ça, on préserve l'environnement de ces champignons. Donc, faut pas oublier ça. Je pense que c'est important.
Ce sera de toute façon favorable aussi pour les champignons. Même si on s'en occupe pas directement, ça agira aussi sur ces organismes.
Oui, vu qu'on prend cette méthode intégrée pour protéger des habitats, eh bien, ça va inclure les organismes qui se trouvent sur le site. Et j'espère bien que ça fonctionnera pour les champignons.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que scientifique spécialiste aussi des champignons, quand vous lisez précisément ces rapports? C'était l'objet de votre article dans The Conversation. Vous prenez connaissance de cette liste rouge de l'UICN. Ça vous dit quoi, en fait?
Alors déjà, moi, je suis très contente qu'elle existe et qu'elle soit accessible à tout le monde. Tout le monde peut la consulter. Je pense.
Mais au-delà de ça, vous, qu'est-ce que vous éprouvez finalement autour de ces organismes qui vous sont chers quand même à la base ?
Alors.
C'est beaucoup d'inquiétude ?
Non, j'essaye de pas. On a trop d'inquiétudes partout. Moi, j'espère qu'on peut se concentrer sur les initiatives et comment on avance justement maintenant qu'on le sait. Comment est-ce qu'on va de l'avant et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ça, c'est ce qui est vraiment important. C'est ce que j'essaye d'inculquer à mes étudiants parce que sinon, on étouffe et on avance jamais.
Mais vous avez l'impression qu'il y a un mouvement qui se crée déjà ou pas?
Oui, je vois qu'il y a des initiatives qui se créent. Bon, pas en France pour le moment, mais par exemple, il y a Toby Quayers que vous avez mentionné qui a créé l'initiative qui est à l'origine de l'initiative SPUN, qui cherche à cartographier les champignons. Bon, pour le coup, là, se concentre.
On peut en parler, hein, parce qu'il faut en parler de ce programme. C'est complètement dément, en fait. Hein. C'est cartographier les réseaux de mycorhiziens à l'échelle de la planète, c'est ça ?
Tout à fait. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que les explorations scientifiques, je ne sais pas si on en fait encore comme ça existait avant. Et là, c'est vraiment une expédition dans des lieux qui sont très peu accessibles pour essayer de cartographier ces champignons, pour essayer de voir leur distribution. Et bon, on pourra parler de ce qu'ils ont trouvé jusqu'à maintenant, mais c'est 2,8 milliards de séquences d'ADN collectées, dont 130 pays qui sont analysés, pour essayer de faire cette carte, pour pouvoir voir si, justement, les habitats qui sont protégés correspondent aux endroits où on a une grande diversité de champignons.
Donc l'idée, c'est de faire une carte de ce réseau mycorhizien dont on parlait tout à l'heure ? Ce réseau invisible, quand même, quasiment.
C'est pas tellement le réseau, mais savoir la richesse des espèces. Où est-ce qu'on a le plus de richesse d'espèces ? Et est-ce que ça correspond aux endroits qui sont déjà protégés ou pas ? Ouais. Si ça correspond pas à des sites protégés, eh ben, il va falloir cibler ces sites où on a énormément de richesse.
Et donc, effectivement, comme vous le rappeliez tout à l'heure aussi, mieux protéger, est-ce qu'il sert à la fois de puits de carbone, de réserve de nutriments ? Parce que c'est utile de pouvoir avoir des connaissances là-dessus, aussi pour cela ?
Oui, tout à fait. C'est nécessaire d'avoir des écosystèmes qui fonctionnent. On en parle depuis tout à l'heure, mais ces champignons mycorhiziens, qui sont eux-mêmes, pour une grande partie, pas tous, mais une grande partie, ne produisent pas le fameux champignon dont on parlait au début de l'émission. Comme on ne les voit pas, on est obligé de faire ces séquençages, on est obligé d'aller explorer ces endroits pour pouvoir les détecter.
Donc, système écosystème inexploré, très vaste, très complexe.
Dont la Corse, d'ailleurs.
Dont la Corse aussi,
oui.
Mais qui fait l'objet de cette cartographie qui arrive quasiment à son terme là ou pas ?
Non, je crois qu'ils
continuent. Parce que ça fait un petit moment qu'ils ont commencé déjà.
Je crois que le programme s'est lancé en 2023. Je crois qu'ils sont encore en train d'échantillonner. Mmh. Et j'espère qu'ils continueront à recevoir des financements pour continuer à explorer.
C'est ça, réseau mondial fongique avec cette cartographie. Alors, ça fait partie des initiatives. Il y en a d'autres ou pas ?
Oui, j'ai vu qu'au Canada, il y avait une initiative qui venait d'apparaître. Oui. C'est surtout après des initiatives pour faire connaître les champignons. Oui. Il y en a une autre au Chili. C'est pour essayer d'inclure les champignons comme des espèces protégées, comme en parlait Florian, qu'on n'en a pas en France en tout cas. Il y a des efforts qui sont faits pour que ce soit considéré comme des organismes importants, et qu'on puisse les protéger.
Allez, on va tout de suite passer aux questions des auditeurs et auditrices. Et nous allons écouter vos voix avec vos questions et vos notes vocales reçues sur l'application Radio France. On va commencer avec la question de Sébastien.
Bonjour France Inter, je suis du côté de Rennes. Il y a certaines espèces de champignons qui ont quasiment disparu, qu'on pouvait trouver. Et notamment, je pense, c'est dû aux intrants de maïs. Et dès qu'il y a un champ de maïs, il n'y a plus un champignon autour pendant des années. Quoi. Au revoir.
Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Florian Kirchner. Vous pouvez rebondir sur ce message-là de Sébastien ?
Ben, en tout cas, c'est tout à fait possible. Dans les intrants, il peut y avoir des fongicides, donc des pesticides qui luttent contre les champignons, qui affectent des espèces menacées. Il y a parfois les engrais aussi. Hein. Quand on apporte beaucoup d'engrais, on modifie les sols. Donc parfois, on modifie de manière défavorable les conditions de vie des champignons. Donc ça, c'est une des grandes menaces. L'agriculture intensive, hein, c'est pas une découverte. C'est un problème pour la biodiversité.
Colline de Vautour.
Oui, je vais chipoter, mais je vais me permettre de dire que si, on aura quand même des champignons. On a des champignons qui affectent le maïs et qui d'ailleurs sont consommés au Mexique comme une gastronomie particulière, mais que nous, on ne connaît pas en France et que du coup, on ne le consomme pas.
Ouais. Mais... Nathalie demande, que peut-on dire des champignons présents dans le corps humain ? Sont-ils bénéfiques, maléfiques ? Sont-ils également en voie de disparition ? Quelle est leur évolution ? Alors, vous avez le droit de ne pas répondre à une de vos tours si vous n'avez pas la réponse exacte.
Si. Mais... je n'ai pas de réponse exacte, mais je trouve que c'est une superbe question. C'est oui, dans notre microbiote, dans notre organisme, on doit avoir pas mal de champignons. Si vous êtes en bonne santé, vous avez des champignons qui contribuent au fonctionnement de votre organisme. Parfois, on a des champignons qui deviennent opportunistes, c'est-à-dire que si on est très fatigué, très stressé, ça prend le dessus. Voilà, donc ça peut être un problème pour notre organisme. Mmh. Est-ce qu'ils sont en danger d'extinction ? Mais je ne pense pas qu'on ait la réponse, mais c'est une très bonne question. Est-ce que notre alimentation pourrait changer le microbiote et mettre en danger des espèces qui sont associées avec nous ?
En tout cas, quand on étudie les microbiotes, on voit qu'il y a des bactéries ou des virus qui peuvent aussi être en voie de disparition, parce que...
Ah, si c'est le cas, je n'étais pas au courant, mais c'est fascinant.
Donc les champignons devraient aussi, a priori, être concernés.
Ça pourrait être le cas, oui.
Quid de la mérule qui a détruit deux fois une grande partie du bois de la petite maison de nos amis, dit Jean-Louis. Est-ce que vous connaissez ce champignon
oui,
particulier, Colline
Oui, quelle est la question ? Est-ce qu'ils sont en voie d'extinction ?
En tout cas, cette mérule, elle a détruit une grande partie du bois de la maison de ses amis. Donc,
J'en suis bien désolée. J'espère qu'elle n'est pas quand même pas en voie d'extinction. Est-ce qu'on a des pathogènes qui sont en voie de...
Florian Kirchner.
On n'a pas encore fait de liste rouge des champignons pathogènes, mais probablement dans les champignons qui nous sont néfastes aujourd'hui et nuisibles, il y en a certainement qui sont menacés, mais ça, on ne le sait pas du tout aujourd'hui.
Mmh. Mousse s'intéresse à la truffe, champignon mycorhizien. Est-elle aussi menacée en sachant qu'elle a besoin d'un sol pauvre et calcaire et d'eau à des périodes bien déterminées ?
Je sais pas. Je pense que comme c'est un champignon avec une importance économique, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'efforts de fait pour maintenir des cultures, parce que finalement, c'est une culture.
On va écouter le message, la note vocale de Lionel, arrivée sur l'application Radio France.
Lionel de Dordogne. C'était surtout pour demander au niveau des fromages. Tous les pénicilliums qu'on aurait perdus. Bon, le pénicillium roqueforti, apparemment bien conservé. Mais qu'en est-il de tous les autres, pour le camembert et ainsi de suite ?
Colline de Vautour, c'est pour vous la question. Il y en a plusieurs d'ailleurs sur les fromages.
Oui, bah, peut-être
rappeler la présence des champignons quand même, essentiel pour nos fromages.
Oui, c'est une question bien française, ça me plaît. Effectivement, une manière dont on exploite les champignons, c'est pour produire du fromage. Donc, Penicillium roqueforti, Camemberti. Une des problématiques associées avec ces champignons, c'est qu'il me semble qu'on ne connaît pas leur reproduction sexuelle. Ce qui fait que on ne peut pas avoir de diversité génétique, et ça, une des problématiques, c'est de maintenir ces populations de fromage.
Dernier message de Marie qui nous dit: il y a 45 ans, mon père a prêté un terrain pour un stagiaire japonais du ministère de l'Agriculture pour tester la culture de champignons médicinaux japonais. Échanger avec ces personnes me semble intéressant car ils connaissent très très bien aussi ce sujet. Il y a beaucoup de scientifiques japonais qui travaillent sur ces questions.
Alors là, vous, j'imagine que oui. On doit être une communauté scientifique au niveau mondial qui s'intéresse aux champignons. C'est un grand monde, hein, les champignons, comme on en a parlé depuis le début. Mais de toute façon, communiquer, que ce soit avec des experts, des amateurs, des scientifiques, la population, c'est primordial.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Colline de Vautour, Florian Kirchner. On peut découvrir la liste rouge de l'UICN, elle est en accès libre.
Exactement, on accède libre sur notre site et on poursuit le travail parce qu'on n'en est qu'au début de l'état des lieux de la liste rouge.
Merci à Thomas Allard à la technique, Lucie Sarfati pour la programmation et la coordination et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission. Dans un instant, juste après les infos, ce sera l'heure de l'affaire sensible avec Fabrice Drouel.